Jesus Christus.
Présentation des bilans du Saint-Siège et pour la première fois de l'APSA, l'administration du patrimoine du siège apostolique. Baisse des revenus, Covid oblige, mais moins que redouté. Nous tenterons d'y voir plus clair juste après les titres. L'avancée des talibans pousse des milliers d'Afghans à quitter le pays tant qu'il est encore temps. Plusieurs pays ont ainsi annoncé des mesures pour accorder des visas à ces personnes. Les Libanais, bientôt en manque d'eau potable, c'est l'alarme lancée par l'UNICEF, une nouvelle plaie pour le Liban en crise. Nier le génocide de Srebrenica sera dorénavant interdit en Bosnie-Herzégovine, une décision du haut représentant de la communauté internationale qui ravive les tensions entre les communautés bosniaques et serbes.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Les finances du Saint-Siège à la une donc de ce journal. Ce samedi, le secrétariat pour l'économie a présenté son bilan pour l'année 2020 et il n'est pas le seul. L'administration du patrimoine du siège apostolique, l'APSA, a également rendu public le sien. C'est une première depuis sa création en 1967. Les deux institutions font état d'une baisse des revenus en raison de la crise sanitaire, mais plusieurs aspects positifs en ressortent aussi, signe que les mesures prises ces derniers mois vont dans le bon sens. On voit ça tout de suite avec vous, Manuela Figi.
Oui, Xavier, 2020 a été une année difficile pour le Saint-Siège. Le total des recettes a baissé de 58 millions d'euros, mais le résultat apparaît, vous l'avez dit, tout de même, légèrement meilleur que les différents scénarios envisagés. Et cela grâce aux sacrifices consentis de la part des dicastères qui ont agi de manière responsable en réduisant leurs dépenses. Certains d'entre eux ont même décidé d'augmenter leur aide aux églises locales dans le besoin. Bref, l'effort a été collectif.
Et qu'en est-il de l'APSA?
Eh bien, c'est à peu près la même chose. Les recettes ont baissé car l'institution a choisi d'annuler une partie de ses loyers tenus par des commerçants. Notons aussi qu'il y a eu des investissements faits à hauteur de plus d'un milliard d'euros. Et puis, c'est grâce à eux qu'on a pu aider l'aumônerie apostolique ou encore qu'une église a pu être construite à Paris, par exemple. Et là aussi, Xavier, c'est un sentiment positif qui se dégage car les comportements ont changé. Les énergies sont désormais orientées vers une administration efficace, fiable et transparente. Cela va donc dans le bon sens, assure le directeur de l'APSA, Monseigneur Galantino. Car au final, dit-il, tout cela fait ressortir la volonté d'agir véritablement comme église.
Manuela Figi, notre spécialiste finance. Demain, l'église célébrera la première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Au programme de cette journée instituée par le pape François, une messe célébrée en la basilique Saint-Pierre présidée par Mgr Fisichella, président du conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Messe retransmise en direct sur notre site internet avec commentaires en français. Il y aura aussi des événements qui auront lieu dans les paroisses, sans oublier la prière officielle que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. Après l'ouverture officielle par l'empereur du Japon des Jeux Olympiques de Tokyo hier soir, place maintenant au sport, mais toujours sans spectateurs. Les athlètes qui ont remporté les premières médailles ont écouté leur hymne sans public aujourd'hui. En dehors des stades et des enceintes sportives, l'enthousiasme populaire est lui aussi absent. Les Japonais étant plus préoccupés par une résurgence des cas de Covid dans leur capitale. La Covid contraint le gouvernement vietnamien à confiner les 8 millions d'habitants de la capitale, Hanoï, pour tenter de contenir la montée des cas. Un tiers des Vietnamiens sont déjà obligés de rester chez eux. La grande ville du sud, Ho Chi Minh Ville, est-elle confinée depuis un mois et l'ordre de demeurer chez soi a même été prolongé. Le confinement des milliers d'Australiens en ont assez, ils l'ont dit dans la rue aujourd'hui, notamment à Sydney où des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre. Des milliers d'autres ont défilé à Melbourne, protestant devant le Parlement de l'État de Victoria. Les habitants des deux principales villes ne peuvent pas sortir de chez eux sauf pour motif impératif pendant un mois. L'avancée des talibans pousse des milliers d'Afghans à quitter le pays tant qu'il en est encore temps. Plusieurs pays ont ainsi annoncé des mesures pour accorder des visas à ces personnes, d'anciens employés d'ambassades occidentales, des interprètes qui ont travaillé pour les forces de l'OTAN et qui craignent les représailles des talibans et qui demandent donc l'asile d'urgence. Cette peur donne un aperçu de la vague migratoire qu'une victoire des combattants islamistes pourrait provoquer. Les précisions d'Emmanuel Derville.
Voilà plusieurs mois que des parlementaires, des avocats et des vétérans demandaient au gouvernement canadien de mettre à l'abri les Afghans qui ont travaillé pour l'armée ou l'ambassade. Vendredi, Ottawa a fini par céder et promis d'accorder l'asile à ceux qui sont menacés. De son côté, la Chambre des représentants aux États-Unis a voté un projet de loi vendredi qui assouplit les conditions de délivrance des visas, une mesure qui devrait bénéficier à 8000 candidats sous réserve du feu vert du Sénat. Un pont aérien américain est également prévu la semaine prochaine pour évacuer d'anciens employés et interprètes dont les demandes d'asile sont en cours d'examen. En Europe aussi, la société civile élève la voix. Mercredi, une trentaine d'ONG ont appelé les pays de l'Union européenne à suspendre les expulsions vers l'Afghanistan. Et le Tadjikistan affirme se préparer à accueillir 100 000 Afghans. Les autorités prévoient d'ores et déjà d'aménager un camp de réfugiés. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
Une base militaire abritant des troupes américaines au Kurdistan irakien a été attaquée par un drone hier matin sans faire de victimes. C'est la base de Halahir à 70 km au nord-est d'Erbil qui a été visée. Cette attaque intervient quelques jours avant la visite du Premier ministre Mustafa al-Kazimi à Washington. Elle est prévue lundi. Le chef du gouvernement irakien doit discuter avec le président américain de la présence militaire américaine en Irak. Présence qui n'est pas souhaitée par les parties proches de l'Iran. C'est une nouvelle plaie qui s'abat sur le Liban. Plus de 4 millions de personnes, dont 1 million de réfugiés, risquent de ne plus avoir accès à l'eau potable. C'est ce qu'a déclaré Yuki Moko, la représentante de l'UNICEF au pays du Cèdre, avec des effets négatifs immédiats sur la santé publique, avec notamment une hygiène compromise et une augmentation des maladies. Les précisions à Beyrouth de Paul Ralifé.
L'UNICEF estime que la plupart des pompages d'eau cesseront progressivement au Liban au cours des 4 à 6 prochaines semaines. En cause, l'aggravation de la crise économique, les pénuries de financement, de carburant et de fournitures, telles que le chlore et les pièces détachées. L'épuisement des réserves en devises de la Banque du Liban rend difficile l'importation des produits et des équipements nécessaires. L'effondrement du système public d'approvisionnement en eau fera grimper le coût de l'eau de 200% par mois. Les chiffres fournis par l'agence de l'ONU sont alarmants. Près de 1,7 million de personnes n'ont accès qu'à 35 litres par jour, soit une diminution de près de 80% par rapport à la moyenne nationale de 165 litres avant 2020. Si des mesures urgentes ne sont pas prises, les hôpitaux, les écoles et les installations publiques essentielles ne pourront pas fonctionner, met en garde Yuki Mokuo, la représentante de l'UNICEF à Beyrouth. Plus de 4 millions de personnes seront alors obligées de recourir à des sources d'eau dangereuses et coûteuses, mettant en danger la santé et l'hygiène des enfants. L'agence de l'ONU affirme avoir besoin de 40 millions de dollars par an pour que l'eau continue de couler pour plus de 4 millions de personnes. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
C'est la preuve d'une blessure qui est loin d'être cicatrisée en Bosnie, où minimiser le génocide en Bosnie sera dorénavant interdit. Or, ce sujet oppose toujours les communautés serbes et bosniaques, qui avec un élu de la communauté croate se partagent le pouvoir en Bosnie-Herzégovine depuis les accords de Dayton. La décision d'interdire le déni de génocide a été imposée hier par le haut représentant de la communauté internationale en Bosnie, l'Autrichien Valentin Inzko, et elle réveille les tensions. Les détails avec Jean-Charles Puzolu.
Valentin Inzko, qui quittera son poste à la fin du mois, a donc pris ses responsabilités hier en imposant un amendement bloqué depuis des années par les députés serbes. Amendement avec entrée en vigueur immédiate et qui décrète l'interdiction de nier ou de minimiser le génocide. Si la décision du diplomate autrichien est saluée d'historique par la communauté bosniaque musulmane, dont les blessures liées au massacre de Srebrenica lorsque 8000 dès lors furent abattus en juillet 1995 sont aujourd'hui encore douloureuses, le représentant serbe de la présidence collégiale de Bosnie, Mirolad Dodik, ne fait pas marche arrière. Selon lui, il n'y a pas eu de génocide. Il se limite à reconnaître un crime grave. Par ailleurs, les Serbes de Bosnie considèrent souvent leurs anciens chefs de guerre et politiques comme des héros, tandis que la justice internationale les a condamnés à la perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Conséquence de l'amendement, le parquet bosnien a annoncé qu'il se saisirait immédiatement de toute controverse.
Jean-Charles Puzolu. La Sierra Leone, à un pas de l'abolition de la peine de mort, l'Assemblée nationale l'a votée hier. Ne manque plus donc que la promulgation de la loi par le président de la République. Les peines capitales seront dorénavant remplacées par une peine d'emprisonnement à perpétuité. La dernière exécution capitale a eu lieu il y a une trentaine d'années. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera lundi matin à 8h30 heure de Rome. N'oubliez pas cependant, demain matin à 10h, la messe pour la journée mondiale des personnes âgées et des grands-parents. Une messe donc en direct et commentée en français à suivre sur notre site internet www.vaticannews.va. Excellente journée, très bon week-end à toutes et à tous.